Bonsoir à toutes et à tous. La réforme des retraites attendra, au moins jusqu'à l'année prochaine. Idem pour l'assurance chômage. Jean Castex recevait aujourd'hui les partenaires sociaux pour une grande conférence sociale. Mais voilà, l'heure n'est plus aux réformes, visiblement, mais à la relance de l'économie. Objectif, dépenser des centaines de milliards pour sauver les entreprises et contenir l'envolée du chômage. Bref, les dépenses s'envolent, la dette explose, mais les réformes, elles, attendront. Une politique qui fait tiquer certains de nos partenaires européens, réunis aujourd'hui même à Bruxelles pour un sommet crucial sur le plan de relance de 750 milliards d'euros. Sauf que justement, les pays dits frugaux exigent, en contrepartie de ces milliards dépensés à foison, ils exigent des réformes structurelles, réformes que le gouvernement français semble avoir repoussées aux calendes grecques. C'est le sujet de cette émission de Se C'est dans l'air, intitulée ce soir « Retraite, impôts, dette, le casse-tête de Castex ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je rappelle que vous avez présidé le rapport du comité 21 intitulé « La grande transformation, 10 propositions concrètes pour changer le système ». Françoise Fressoz, vous êtes éditorialiste politique au Monde. Je cite votre dernier édito sur Jean Castex, intitulé « Réduire les fractures françaises ». Anne-Laure Delatte, vous êtes chercheuse au CNRS et responsable de l'équipe macro et finance au CEPI. Et je rappelle que vous êtes co-auteur du Manifeste pour la démocratisation de l'Europe avec Thomas Piketty. Et enfin, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, directeur adjoint du département Analyse et Prévision. Et vous venez de publier une étude sur le plan de relance européen. Alors, Philippe de Sertine, l'impératif, si on a bien compris, ça n'est plus la réforme, ce ne sont plus les réformes, mais c'est bien de soutenir l'économie en faisant de la relance, c'est-à-dire en dépensant sans compter, quoi qu'il en coûte, comme dit le président.
Oui, alors on a bien compris qu'il y a eu le Covid, qu'on est dans une crise absolument incroyable, qu'on n'a jamais vue. Tout le monde d'ailleurs maintenant utilise ces termes en disant on n'a jamais connu ça. Le ministre des Finances allemand, quand il était à Paris l'autre jour, dit c'est quelque chose que de mémoire d'homme on n'avait jamais connu. Là, le problème actuellement, c'est pas tellement la dépense, c'est recommencer à créer de la richesse. C'est ça, en fait, quand on est en train de parler, vous voyez, de la dette, c'est quoi? C'est l'anticipation d'une richesse qu'on va créer demain. Et là, le problème actuellement, c'est qu'on en crée beaucoup moins qu'avant de la richesse et qu'on a peur que ça dure encore du temps. Donc là, vraiment, l'impératif, c'est essayer de relancer par tous les moyens, on va dire, une création de richesse générale. Et après, peut-être ce qui serait pas mal, c'est une création de richesse pérenne, c'est-à-dire une richesse qui s'inscrive dans une vision qui serait tenable de l'économie demain. C'est-à-dire, effectivement, avec des questions d'économie verte ou d'économie, on va dire, avec du développement durable. Mais je crois vraiment que l'idée derrière la dépense, parce que la dépense, ça ne veut rien dire, c'est de dire ce que l'on veut, c'est qu'on recommence à créer de la richesse, d'où d'ailleurs les messages, il faut se remettre à travailler, il faut investir, etc. En fait, derrière, vous avez sans arrêt, on va dire, cette sorte de pédagogie de la relance de la machine, parce que c'est vrai que pédagogiquement, c'est compliqué d'expliquer ce qui se passe. Les gens sont complètement abasourdis par les montants de dettes dans lesquels nous sommes, dans les montants de pertes dans lesquels nous sommes, dans les montants d'effondrement d'économie. Effectivement, jamais personne n'a connu ça. On n'a plus de repères et on est un peu chaos là, quand on est avec toutes ces informations.
Françoise Fressoz, quand même, le président a dit qu'il fallait se réinventer, à commencer par moi-même. Est-ce que ça veut dire que la crise du Covid a changé le logiciel économique du macronisme? Est-ce que l'Emmanuel Macron a les mêmes idées économiques que celles qu'il avait en 2017?
Je trouve que c'est étonnamment constant, au fond, parce que Philippe de Sertine a tout à fait raison. Ce qui se dessine là, à travers cet endettement record, c'est quand même la création d'un modèle qui soit soutenable, d'une croissance qui soit soutenable à terme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le discours d'Emmanuel Macron le travail, priorité à sauvegarde des entreprises, priorité à sauvegarde du travail, priorité à la formation, ce qui est depuis le début de son quinquennat son cap, refus des hausses d'impôts, demandé par la gauche, une partie de la gauche qui voulait un effort de solidarité, refus absolu, en disant ce qu'il faut qu'on essaye de construire au terme de cette crise, c'est un modèle où, au fond, c'est le travail, l'augmentation du volume de travail qui assurera une croissance susceptible, alors c'est là que ça devient plus compliqué parce qu'il y a effectivement l'héritage de la dette après, c'est susceptible au fond d'équilibrer un fonctionnement d'un modèle social qui soit à peu près équilibré. Alors le président, il ne rentre pas trop dans les détails, hein. Il dit on peut équilibrer le régime des retraites, la santé c'est plus compliqué, les collectivités locales on doit y arriver, mais en tout cas il faut que notre modèle social soit soutenable et pour ça la priorité c'est création du travail, augmentation du volume de travail et sauvegarde de l'outil de production.
Il n'empêche, Mathieu Plane, Emmanuel Macron, c'était la promesse de réformer la France. La réforme du marché du travail, la réforme de la retraite. On a l'impression que cette crise du Covid nous dispense de ces réformes. Finalement, on n'en a plus besoin. Ou c'est plus du tout l'urgence?
Non, c'est plus l'urgence, là, clairement.
Mais on n'en a plus besoin aussi?
Alors après, ça dépend de la vision de la politique économique que vous avez. Clairement, on est dans un autre monde. Enfin, depuis le 15 mars, on a des chocs économiques qu'on n'a jamais connus partout dans le monde. Et on est au début, c'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Là, pour le moment, on a vu la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire on commence à comptabiliser les pertes économiques. Nous, l'OFCE fait ce travail, on a 165 milliards, rien que pour la France, de pertes économiques en l'espace de 4 mois. On a réussi à tenir parce qu'on a reporté par des crédits de trésorerie, on a fait des prêts garantis par l'État, des reports de dette fiscale. Il y a à peu près 140 milliards qu'il va falloir aussi payer, qui s'accumulent. Donc on soutient l'économie. Aujourd'hui, faire des réformes budgétaires, alors sur la réforme des retraites, c'est un peu différent parce que vous pouvez avoir une réforme structurelle sur le long terme, ce qui s'inscrit, c'est-à-dire passage à un système universel, je pense que ça sera certainement le cas. Mais derrière, il y avait quand même toute la conférence de financement qui était notamment rétablir les équilibres budgétaires à l'horizon 2027. C'était le fameux H pivot, les 12 milliards à trouver, et donc les syndicats devaient négocier autour de ça.
Tout ça s'est passé à la trappe.
Aujourd'hui, on va être à 30 milliards de déficit sur les régimes de retraite, alors qu'on devait être à 4. La trajectoire budgétaire, elle est complètement explosée par rapport à ce qu'on avait connu. On ne sait même pas quelle va être la croissance dans un trimestre. Comment on voulait faire une projection d'activité ou de trajectoire financière soutenable à l'horizon de 10 ans. On ne connaît pas le monde d'après.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les déficits sont tels que finalement, les réformes qu'on était en train de mettre en œuvre pour réduire les déficits, aujourd'hui, c'est devenu tellement... Ça serait epsilonesque, c'est ça?
Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, pour le moment, c'est vraiment préserver l'économie, sauver ce qui est sauvable, d'ailleurs, parce que ce n'est pas évident de savoir ce qui est vraiment sauvable. Comment on préserve les emplois et comment on relance la machine. Et donc, ça, c'est cette priorité. Si, dans le même temps, vous dites, il faut faire des économies budgétaires, j'augmente les cotisations, j'allonge la durée d'activité... En fait, c'est complètement anachronique, c'est antinomique avec ce qu'on est en train de faire. Ça passe pas. Donc, c'est peut-être effectivement le calendrier du mandat d'après, de 2022, la réforme des retraites. D'accord. Et la question budgétaire. Mais pour le moment, ça ne peut pas passer par rapport à un plan de relance qui vise justement à relancer les machines et pas du tout à aller faire des économies.
Alors, ce qui est très intéressant, Anne-Laure Delatte, c'est qu'en ce moment même se tient un sommet européen où il y a les 27 chefs d'État. Il y a notamment les 4 pays dits frugaux, l'Autriche, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. Je parle des Pays-Bas puisque le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est devenu le père fouettard de l'Europe, en quelque sorte. Il dit, c'est très bien de dépenser, là, de faire vos plans de relance, mais la première chose à faire quand on fait pour avoir une économie solide, c'est de faire des réformes. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, Emmanuel Macron, faites vos réformes, réformez la retraite, réformez le chômage, c'est ça l'urgence?
Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 pays que vous avez cités, il n'y a plus l'Allemagne. Et en fait, le grand changement par rapport à la crise précédente, pour nous, la crise européenne, elle a eu lieu en 2010-2012. Et on jouait déjà cette tension entre les créanciers et les débiteurs, l'Allemagne étant le leader des créanciers et disant aux débiteurs, donc aux Italiens, aux Espagnols et aux Grecs, réformer et faites des réformes structurelles, implémentez l'austérité et on vous aidera. Là, on a cru qu'on allait changer, très vite en mars. En fait, vous avez une réaction extrêmement rapide à la fois de la Banque Centrale Européenne, vous avez une coordination beaucoup plus rapide des leaders européens. Mais l'Allemagne était encore dans le camp...
Des frugaux,
voilà.
Alors, sérieux,
des frugaux,
comme on
en tout
dit.
Cas, voilà, c'est ça. Et en fait, on a eu un changement vraiment très important, c'est le 18 mai, quand Emmanuel Macron et Angela Merkel font une proposition ensemble qui est assez radicale, dont on aura peut-être l'occasion de parler.
On va y revenir largement. Oui.
Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer? On a toujours cette vision austéritaire, réforme structurelle en Europe, qui est portée par 4 pays, dont alors, le fer de lance, c'est les Pays-Bas, qui ont peut-être un peu moins de crédibilité que l'Allemagne, parce que des réformes fiscales, on aimerait bien qu'ils en fassent eux. Vous voyez, vous avez quand même cette contrepartie. Ils jouent beaucoup la concurrence fiscale, en fait. Donc, vous avez peut-être un point de négociation.
Arrêtez de faire du dumping fiscal, c'est ce qu'on a envie de dire aux Pays-Bas. Mais si j'ai bien compris, vous dites l'Allemagne a changé de camp, en ce sens qu'un peu comme les pays du Sud, elle dit l'urgence n'est pas aux réformes, l'urgence c'est de faire repartir l'économie, et pour cela, il faut injecter de la dépense publique.
Mais alors pourquoi elle le dit? c'est qu'elle a besoin des pays du Sud et elle a surtout besoin des pays de l'Europe centrale et de l'Est qui consomment les produits allemands. Ah. Donc on a vraiment un enjeu commercial. Ben oui, on a un enjeu commercial. Alors on pourrait jouer le côté solidarité, construction européenne. Et bon, enfin, il y a quand même une tradition en Allemagne de ce côté-ci. Mais je crois vraiment que le changement de position allemand, il est... probablement très lié à la position commerciale et le niveau d'exportation, quoi, la dépendance.
La solidarité est un peu intéressée. Il faut que les Français et les Espagnols continuent d'acheter des BMW ou des Volkswagen.
Malheureusement, souvent, en économie.
On y reviendra. Alors, Emmanuel Macron sonne donc la mobilisation générale pour sauver l'économie française, et ce, quoi qu'il en coûte. Jean Castex, lui, abat des chiffres vertigineux. 100 milliards d'euros vont être mis sur la table pour la relance. Un emprunt qu'il faudra forcément rembourser, mais à quelle échéance ? Et faut-il craindre des hausses d'impôts ? Élément de réponse avec Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson.
Philippe Martinez arrive tout sourire ce matin à Matignon. Le patron de la CGT et les autres partenaires sociaux rencontrent le Premier ministre pour parler calendrier social. Et en pleine crise du Covid, les dossiers ne manquent pas. Emploi des jeunes, retraite, assurance chômage, de quoi faire presque peur au président du MEDEF.
Il y a le sujet que j'ai envie d'appeler un peu les 12 travaux d'Hercule, puisque le Premier ministre a listé un nombre très important de sujets à traiter presque tous avant la fin de l'année. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que c'est quand même un agenda très très... chargé.
Un agenda qui voit la réforme de l'assurance chômage et surtout des retraites repoussée en fin d'année. Le signe d'un changement de ton pour les syndicats salariés qui se disent néanmoins vigilants.
Ça correspond à notre volonté de ne pas faire du sujet des retraites un sujet de l'été et de l'automne, de plutôt se laisser du temps du diagnostic.
Ce qui reste un peu flou, c'est la manière dont on va reprendre des discussions. Parce que on a rappelé au Premier ministre que les discussions, il y en a eu durant 2 ans et demi. Et donc, les positions, elles sont claires.
Sans surprise, les positions de chacun n'ont pas changé. Mais Jean Castex tient à rappeler sa feuille de route.
La priorité des priorités désormais, c'est la lutte contre la crise, l'emploi, la lutte contre le chômage et les voies et moyens de retrouver le plus vite possible les voies de la croissance économique.
Une priorité qui renvoie les sujets qui fâchent à plus tard. Pour lutter contre la crise, le gouvernement sort le carnet de chèques. Un plan de relance à 100 milliards, au contour encore flou. Un montant conséquent qui vient creuser la dette des finances publiques. Un déficit qu'assume totalement Bruno Le Maire.
Nous nous sommes endettés. Mais nous nous sommes endettés à bon escient pour sauver notre économie.
Une dette pour laquelle Jean Castex prévient cette semaine dans Le Parisien.
Parce que oui, la crise aura un coût important, ses conséquences ne seront hélas pas gratos.
Selon un rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, à la fin 2020, la dette atteindrait presque les 121% du PIB, soit 2650 milliards d'euros. La dette Covid seule est évaluée à 150 milliards. Pour le gouverneur de la Banque de France, il faudra faire avec.
La dette, on ne peut pas l'annuler, je crois qu'il faut le dire très clairement, et d'ailleurs le bon sens le dit, quand quelqu'un prête à une autre personne, il s'attend à ce que cette dette soit remboursée. C'est vrai aussi de la part de la Banque centrale, nous n'avons pas le droit, nous, Banque centrale européenne ou Banque de France, d'annuler les dettes que nous détenons. Mais par contre, il faut gérer la dette dans le temps, il faut peut-être cantonner la dette héritée du Covid, c'est-à-dire 20% supplémentaire dans les 120% que vous citiez.
Cantonner la dette, le gouvernement le souhaite. Un remboursement étalé sur le long terme, qui pourrait se traduire par une prolongation de la CRDS jusqu'en 2042. Une cotisation prélevée sur les salaires. Dans une tribune des Échos, Éric Woerth, le patron de la commission des finances, redoute que le contribuable ne soit perdant.
Et si le gouvernement, par exemple, affecte une part de TVA au remboursement de la dette confinée ? Part qu'il faudra bien compenser par ailleurs. Ce ne serait qu'une façon plus discrète de procéder à l'augmentation indirecte d'impôts existants.
Des impôts supplémentaires ? Il n'en est pas question, promet le ministre de l'Économie.
Comment est-ce qu'on remboursera cette dette ? D'abord, par de la croissance. Et c'est le pari qu'on fait d'investir massivement maintenant pour avoir de la croissance. Certainement pas par une augmentation d'impôts. On a déjà commis cette erreur dans le passé. On ne va pas la commettre à nouveau. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra aussi faire des efforts sur la dépense publique ? Ma réponse est oui.
Une dépense publique qui devra sans doute se serrer la ceinture. Même s'il se dit prêt à décaler la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts, en tout cas pour l'instant.
Justement, question téléspectateur Joël des Pyrénées-Atlantiques. Un impôt Covid est-il dans les tuyaux, Philippe de Sertine ? On a bien entendu le gouverneur de la Banque de France dire une dette, il faut que ça se rembourse.
Je crois que vraiment, bon, d'abord, il faut rappeler la crise qui arrive, elle va toucher les gens les plus fragiles. Et les gens les plus fragiles, il va y en avoir de plus en plus, et ceux-là, malheureusement, ils ne pourront pas payer d'impôts. Je crois vraiment que là, on doit aussi rappeler que sans cesse, une crise énorme telle qu'on a, ça veut dire une augmentation des gens pauvres en France. Et ça, c'est ce qu'on va connaître à la fin d'année. Ensuite, effectivement, vous avez deux autres catégories de gens qui, par définition, ne sont pas dans celles que je viens d'énoncer. C'est ceux, un, qui paient des impôts et ou qui ont de l'épargne. C'est les deux inquiets, évidemment, en disant « qu'est-ce qui va se passer après ?» Parce que j'ai l'impression soit qu'on va me prendre des impôts, soit qu'on va me prendre de l'épargne. Et en réalité, quand vous êtes en train de regarder historiquement les moments, parce que quand on est en train de parler, vous voyez, d'une dette qu'on va rembourser pendant 30, 40, 50 ans, ça rappelle les après-guerres. Vous voyez, typiquement, après les grandes guerres, on disait « on a une dette énorme, on ne veut pas l'annuler », parce qu'effectivement, quand on annule, on dit « c'est de la fausse monnaie, en fait, hein, là, vraiment », et donc vous faites perte de confiance énorme, donc on l'étale dans le temps, puis après, on essaie quand même de la faire payer par les gens pour qui c'est un peu moins indolore, quoi, donc ceux qui ont de l'épargne, ou ceux qui vont pouvoir payer des impôts. Je dis « et ou hein, », puisque ça peut être effectivement les deux à la fois. Donc là, c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui, on est dans cet esprit qu'on évoquait tout à l'heure, pour qu'on investisse, pour qu'on recommence à créer de la richesse. Il ne faut pas que les gens se disent « mais oui, mais dès que je vais créer de la richesse, de toute façon, on va me tomber dessus et on va tout me prélever ». Parce qu'effectivement, ça, c'est ce qui vous casse la confiance immédiatement. Quand Bruno Le Maire disait « on a fait cette erreur », c'est il n'y a pas très longtemps. C'est le début du quinquennat de François Hollande, hein, que Emmanuel Macron a bien connu, où là, effectivement, trop d'impôts tue l'impôt, quoi. On avait des manques de rentrées fiscales incroyables parce qu'on avait augmenté les taux de fiscalité. Donc là, on sait bien qu'il ne faut pas envoyer ce message-là. Et en même temps, on sait bien aussi qu'à partir du moment où on dit tout cet argent, voyez, même quand on dit 20% de la dette sur 120, il en restera quand même 100% hein, encore. C'est une dette énorme qu'a la France, qui n'est pas héritée du Covid, qui est héritée, on va dire, d'années et d'années de déficit. Là, effectivement, cette dette, elle va poser de plus en plus un problème, même si les taux sont très bas. Il n'empêche, il y a simplement, on va dire, la capacité de la France à faire face à son remboursement, pour se réendetter. Si vous voulez vous réendetter, il faut montrer que vous pouvez rembourser.
Pour être bien pratique, vous dites à moyen terme, le gouvernement sera tenté d'aller chercher l'épargne des Français, enfin de ceux qui ont de l'épargne. Donc vous pensez à l'épargne financière, donc on va relever la taxe sur l'assurance vie, des choses comme ça.
Ah, mais vous avez plein de choses possibles. Vous avez plein de choses possibles, hein, du genre effectivement la CSG aussi. Vous voyez CSG, donc c'est l'impôt sur le capital qui est une vraie grande question, qui était une question d'ailleurs au cœur du mandat de François Hollande. Elle va revenir forcément sur le patrimoine.
Et d'ailleurs, Françoise Fressoz, on a quand même le début de ça, quand le gouvernement a l'air de dire... Alors, il a l'air d'hésiter là, sur la suppression de la taxe d'habitation qui était promise pour tous les Français. Finalement, Emmanuel Macron a dit on va peut-être repousser...
Je pense que le débat sur la taxe d'habitation, il ne porte pas sur le déficit parce que
les montants,
c'est tellement dérisoire par rapport à l'endettement.
7 milliards par rapport à...
7 milliards dans le meilleur des cas par rapport à une dette qui explose. Donc je pense que ce n'est pas ça. C'est simplement se dire, à ce moment du quinquennat, est-ce qu'il faut faire un geste? Il va y avoir énormément de chômeurs, il va y avoir des inégalités qui se creusent. Est-ce qu'il faut donner le signal que les plus riches auront un petit peu moins que les autres? C'est uniquement là-dessus que ça se situe. Et visiblement, l'annonce d'Emmanuel Macron a pris de court Bruno Le Maire, qui n'était pas tout à fait OK sur les modalités. Donc ça, c'est plutôt, je pense, quelque chose de très symbolique. Ce sur quoi je pense qu'il faut insister, c'est l'erreur effectivement qui a été commise en 2008 sur la résorption de l'endettement. C'est vrai que l'impôt a augmenté sous Hollande, mais il avait commencé à augmenter aussi sous Sarkozy avec le nettoyage des niches fiscales. Et au fond, pourquoi Sarkozy a été obligé de le faire ? C'est parce que à un moment, il y a eu une crise, au fond, un doute sur le système français, un doute d'abord de la crise italienne et un doute sur le système français. Et donc, Emmanuel Macron, là, s'est battu comme un fou en Europe pour faire en sorte qu'une partie de la dette puisse être mutualisée et qu'on ne se retrouve pas tout d'un coup dans la même situation qu'en 2008, où tout d'un coup vous avez l'Italie qui est le pays faible, et puis derrière il y a, tiens, la France, elle ne va quand même pas très bien, il y a un endettement énorme. Donc il a eu cet accord franco-allemand qui est essentiel pour la gestion de la crise aujourd'hui. Pour le reste, je pense qu'ils vont cantonner la dette. Là, le débat qui porte, c'est au fond, qu'est-ce qui va être de la dette Covid et qu'est-ce qui n'est pas de la dette Covid. Je pense que ça va être l'un des premiers débats qu'il va y avoir. Ensuite, ils vont faire la caisse d'amortissement de la dette, vous savez, ils vont la cantonner.
Mais ça veut dire que ça va être la CSG, la CRDS.
Ils ont d'ailleurs commencé à cantonner 130 milliards de dettes sociales là, qu'on avait comme par magie hier.
Ça n'est plus la dette de l'État, c'est dans une caisse qui est financée par la CSG et la CRDS.
Et ben voilà, pour le moment, c'est comme ça. Et après, on verra. Et en plus, la situation est totalement inédite parce qu'on n'a jamais vu une situation où il y a eu autant de création monétaire, des taux d'intérêt zéro. Donc personne, au fond, n'est capable d'imaginer comment, si l'endettement va être un vrai problème et comment on va le rembourser. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que pendant toute une partie du confinement, Emmanuel Macron, aidé de colère, a essayé de voir s'il était possible d'annuler la dette Covid. Et ils se sont aperçus qu'au vu des traités budgétaires, c'était absolument impossible de l'annuler.
La Banque centrale ne pouvait pas rayer une dette.
Non, c'était impossible au vu des traités et que donc il fallait la constater, la conserver, faire en sorte que, au fond, ça ne pèse pas immédiatement sur le contribuable, mais avec quand même aussi le souci que ça ne pèse pas non plus complètement sur les jeunes en héritage.
Toute petite question politique quand même, Françoise Fressot, sur cette idée de ne pas supprimer la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Est-ce qu'il n'y avait pas un enjeu politique, pour faire simple, est-ce que ce n'était pas aussi l'électorat d'Emmanuel Macron qui aurait été... victime de cette décision.
Mais la difficulté, c'est qu'au fond, quand vous regardez le seuil qui reste à supprimer, vous avez de la classe moyenne qui paye la taxe d'habitation et qui tout d'un coup, devrait continuer à la payer. Et au fond, ils cherchent la mesure pour les plus riches, mais comme il ne veut pas non plus symboliquement toucher à l'impôt sur la fortune, ils sont restés sur cette mesure de taxe d'habitation. Si jamais c'était décalé pour les plus riches, je pense que ça leur ferait ni chaud ni froid, mais il ne faut pas effectivement qu'en prenant cette mesure, ça touche les classes moyennes qui étaient l'électorat d'Emmanuel Macron.
Mathieu Plane, la question qui nous taraude, c'est est-ce qu'on va augmenter les impôts des particuliers ? Mais les entreprises, non seulement il n'est pas question pour elles d'augmenter les impôts, mais au contraire, dans le plan de relance, si on a bien compris, on va même leur baisser les fameux impôts de production là, de 10 milliards dès cette année. Quelle est la logique ? Pourquoi est-ce qu'il est devenu urgent de baisser les impôts de production que payent les entreprises ?
Alors, d'abord, c'était déjà quelque chose qui était quand même en négociation et sur la table, pour des arguments de compétitivité notamment. Les impôts sur la production sont essentiellement des impôts qui sont assis sur le chiffre d'affaires des entreprises.
C'est-à-dire qu'on paye avant d'avoir dégagé les bénéfices.
Voilà, exactement. Et il se trouve que l'industrie paye notamment, qui est le secteur exportateur particulièrement, paye notamment beaucoup d'impôts de production par rapport à ce qu'il représente dans l'économie. Donc ça, c'est déjà une mesure. Par contre, ça pose la question de savoir si on pérennise cette mesure, est-ce que c'est une mesure Covid ? Ce n'est pas une mesure de relance. Si on fait une mesure structurelle de baisse de fiscalité, là, il n'y a aucune raison de dire que c'est une dette Covid. C'est une mesure de compétitivité pour rattraper la compétitivité vis-à-vis des Allemands.
Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas d'impôt de production. Hein.
Alors, il n'y a pas d'impôt de production. Peu, ouais. Et donc, nous, on avait commencé à la baisser avec la C3S. Alors maintenant, on parle de la CVAE, qui est notamment un impôt que collectent les collectivités locales, qui finance les collectivités locales. En tout cas, voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est une mesure de soutien aux entreprises. Alors, ça ne solutionne pas la problématique des fonds propres des entreprises, vont avoir quand même beaucoup de difficultés. Mais ça permet, en tout cas, de diminuer leur fiscalité. Ça soutient la relance. Mais la question, c'est comment on le financera si on met cette mesure de façon permanente.
Et pourquoi ? C'est l'idée qu'il faut favoriser les relocalisations et donc pour qu'il y ait des relocalisations, il ne faut pas assommer le Made in France d'impôts, c'est ça ?
Voilà, c'est l'idée, c'est-à-dire la relocalisation, la compétitivité. Si vous voulez jouer sur la fiscalité, les impôts sur la production sont forcément un des bons arguments. Je voulais juste rappeler quelque chose par rapport au timing politique, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'effectivement la crise 2008, on a quand même un plan de relance en 2009 et que Nicolas Sarkozy parle de relance au discours de Toulon de façon très interventionniste et que en fait l'austérité budgétaire elle arrive à partir de 2011. Si vous regardez le décalage, c'est à peu près deux ans et demi. Ça veut dire que les enjeux, ça va être 2022, c'est le mandat d'après où il va se passer. Justement, la question, c'est comment on règle la facture, comment on fait. Effectivement, si on baisse un certain nombre d'impôts et qu'on maintient ces baisses de fiscalité, il va falloir trouver des ressources en face. Et là, la question va devenir assez complexe et je ne suis pas sûr que les Allemands, la Commission européenne ou la BCE sera totalement derrière nous.
120%, 121% de dette sur PIB. Mais on a l'impression qu'on peut s'en arranger, Anne-Laure Delatte. Ce qui est étonnant, avant, on nous disait la dette, c'était, enfin, ça fait 10 ans qu'on dit c'est l'horreur absolue. Maintenant, on dit, oh, ben, on peut la cantonner, voire on peut l'annuler. Puis on a d'autres pays à l'étranger qui ont encore plus de dettes et qui vivent très bien. Alors, on a du mal à avoir un regard objectif sur cette situation.
Alors, on a du mal, et je pense que c'est important d'un point de vue citoyen de comprendre en fait comment ça marche, parce qu'on entend plein de choses, c'est assez confus. D'abord, un État, ça n'est pas un ménage. Et aussi curieux que ça puisse paraître, en fait, un État, il roule sa dette, c'est-à-dire qu'il ne rembourse jamais le principal. Voilà. Contrairement à vous, à moi, qui rembourse mon appartement, on roule la dette. Alors pourquoi
chaque
c'est
année,
important
on ne paye que les intérêts quand on est un État. Voilà. On n'a jamais remboursé le capital.
Ouais, sauf si vous avez comme objectif politique de réduire la valeur nominale de votre dette. Mais une stratégie, ça peut juste être de faire de la croissance. C'est-à-dire que plus, si vous faites de la croissance, vous payez vos intérêts et votre dette, au fur et à mesure, elle baisse
par
rapport à vos revenus. Exactement. Donc ça, c'est un premier point très important. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'y a pas un économiste, il me semble, qui est inquiet sur le fait qu'on ait 120% de dette. En fait, vous regardez... alors si, peut-être... Vous avez au Japon une dette qui représente 240% du PIB.
Oh. Au Japon, la dette est la double et le double de celle de la France.
Oui, oui,
240% du PIB.
Et elle a augmenté depuis les années 90 de, il me semble, plus de 70 points. Enfin voilà, c'est vraiment très important. Et pourtant, le Japon n'est pas au bord d'une crise de la dette. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est de comprendre, enfin, d'être sûr que vous allez trouver des investisseurs qui veulent bien vous prêter de l'argent chaque année pour rouler votre dette. Et donc là, on a la chance d'avoir la Banque Centrale Européenne qui s'est substituée à une grosse partie du marché. Donc ça, ça peut poser d'autres problèmes monétaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, elle détient 1 euro sur 5 de la dette française.
C'est-à-dire qu'autrefois, quand la France, quand le gouvernement cherchait de l'argent, il demandait des investisseurs. Maintenant, il va quasiment directement à la Banque Centrale en disant « prêtez-moi de l'argent ». Et la Banque Centrale le fait sans sourciller.
Alors, pas complètement exagéré, parce que c'est 1 euro sur 5, d'accord ? C'est 20% du stock de la dette qui est détenu par la Banque Centrale Européenne. Mais qu'est-ce que ça permet de faire, ça ? Ça permet de s'assurer que les taux d'intérêt restent très bas. Et en l'occurrence, ils sont extrêmement bas. Ouais. Donc,
ça coûte rien.
Donc, ça ne coûte rien. Donc, pourquoi annuler cette dette alors que pour l'instant, en fait, elle ne vous coûte pas grand-chose. C'est ça qui fait qu'on est moins inquiet. Maintenant, il y a peut-être une deuxième chose à comprendre. C'est quand on nous parle de cantonnement. En réalité, cantonner une dette, ça peut la rendre, justement, ça peut lui donner un caractère qui n'est plus ce côté « je ne fais que rouler la dette ». Là, je vais être obligé de rembourser le principal.
Là, on revient dans la situation du ménage. Il y a une caisse, voilà. Il faut éliminer le passif. Et donc, tout rembourser.
Voilà.
Donc, c'est un peu un piège, si j'ai bien compris.
Alors, en tout cas, il faut avoir cette notion politique en tête. Enfin, c'est un choix politique de se dire, je vais cantonner ma dette Covid, je vais prendre les 20 points de PIB que ça représente, et quels impôts je vais mettre en face pour rembourser. Donc, c'est pour ça, quand on raconte qu'il n'y aura pas d'impôts en face, j'ai un petit peu de mal à y croire. Ouais.
Philippe de Sertigny, est-ce qu'il n'y a pas quand même un scénario cauchemardesque ? On rappelle qu'en 2011, à cause de sa dette, les Grecs se sont retrouvés avec le FMI à Athènes. Le FMI qui a pris des décisions de baisser les retraites, de tailler dans les dépenses sociales, etc. Est-ce que c'est un scénario qui est totalement inenvisageable ? Est-ce qu'on peut dire que jamais le FMI ne viendra à Paris pour nous donner des ordres comme ils l'ont fait en Grèce ?
Il est déjà venu, hein, il est venu on ne s'en souvient pas, mais pendant très longtemps, on faisait notre budget à Washington, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale.
Il est venu en Angleterre dans les années 76.
Oui, bien sûr, aussi. Hein. Ouais. Donc, non, ce n'est pas quelque chose de complètement impossible. Bon, la Grèce, il y avait un énorme avantage pour la Grèce, c'est qu'il y avait l'Europe quand même. Hein. Vous aviez le FMI, ce qu'on appelait la Troïka, c'est-à-dire vous aviez les Européens. C'est-à-dire que malgré tout, derrière, il y avait une capacité, parce qu'on vous a dit, on roule la dette pour autant qu'il y ait un minimum de confiance. Si vous parlez en Argentine, eux, ils n'ont pas pu rouler la dette. Hein. C'est-à-dire, ça s'est effondré littéralement, le Mexique, etc. Et bien sûr, l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, parce que là, on est dans une période tellement extraordinaire qu'on doit se référer à des périodes incroyables qui sont produites dans le passé. Après la Première Guerre mondiale, c'est ça, le traumatisme allemand qui explique leur réaction, c'est qu'ils ont connu cet effondrement-là. Il n'y avait pas de FMI, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a créé en 1944, d'ailleurs. Hein. On a dit, là, il faut vraiment faire attention, parce que ça nous a ramené une Deuxième Guerre mondiale. Donc là, oui, on peut avoir, à un moment donné, véritablement le système financier. C'est quand même pour ça que tout le monde est sérieux. Là, quand on est en train d'évoquer ça, on fait quand même très très attention où on met les pieds. On est en train de dire oui, bien sûr, on ne peut pas rembourser la dette, mais quand même, quoi, il va falloir faire très attention parce qu'on peut, on n'est pas loin d'être dans un effet de bascule qu'on a connu dans l'histoire à plusieurs reprises.
Et c'est quand la confiance tombe.
C'est ça le terme qu'a utilisé le Premier ministre qu'on a vu tout à l'heure dans le journal. Vous voyez, il dit la confiance. La monnaie, en fait, ça n'a pas de sens. La monnaie, ça n'a d'intérêt que si tout le monde a confiance dans la monnaie. Et en fait, la monnaie, c'est l'avenir. Si vous n'avez plus de monnaie, vous êtes dans le troc, vous êtes dans l'immédiat. La monnaie, c'est tout le problème de la finance. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une confiance dans la monnaie, à ce moment-là, on n'est plus que dans de la spéculation de court terme. Et ça, c'est l'énorme danger. On sent bien qu'on n'est pas loin de ça. Hein, on voit bien d'ailleurs que les épargnants, aujourd'hui, vont gonfler artificiellement leurs avoirs, par exemple, en bitcoin. Le bitcoin, c'est quoi ? Pourquoi intérêt de bitcoin ? Bitcoin, son seul intérêt, c'est que ce n'est pas une banque centrale qui l'émet, c'est un logiciel. Et les gens disent « Ah ben ça, au moins, c'est sérieux ». C'est très, très grave. Vous voyez, si on est juste là en train de dire pourquoi le bitcoin, c'est intéressant, parce que c'est la banque centrale. C'est comme l'or, quoi. Pourquoi
la montée de l'or, là, qui a gagné 20%.
C'est un truc, là, où personne ne peut en créer. Donc, on dit, bah, au moins, ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas l'air artificiel. Donc, ça, c'est des signes qu'on commence à avoir des fissures dans la confiance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tous les politiques dans le monde disent ça en ce moment. Ils disent tous, ce qui est important, c'est la restauration de la confiance. Confiance dans l'avenir.
Et c'est pour ça que le gouverneur de la Banque de France, qu'on a vu, ne peut pas dire autre chose que « nous allons rembourser nos dettes ». Parce que si on commence à dire « non, nous ne rembourserons plus nos dettes », alors c'est le mur de la confiance qui se lézarde.
Ça veut dire que votre monnaie est une monnaie de papier. Puisque voilà. Vous voyez, si vous dites « je crée, l'État a besoin, on lui donne, mais après on annule », tout le monde dit « c'est le Monopoly ». J'ai mis une photocopie à côté de la banque du Monopoly.
Alors, si le plan de relance est acté en France, ça n'est pas encore le cas au niveau européen. À Bruxelles, les chefs de l'État négocient en ce moment même, dans la douleur, le déblocage d'une enveloppe de 750 milliards d'euros. Plusieurs pays demandent que ces aides soient conditionnées à des réformes de structure. La bataille des frugaux contre les dépensiers, c'est un sujet de Laura Rado et d'Ilana Azinko.
C'est un son qui rythme les journées du port de Palais. Comme une alerte à la marée humaine, qui gagne 10 fois par jour la principale porte d'entrée de Belle-Île-en-Mer.
Ben, il y a particulièrement du monde cette année sur l'île. Et je pense que l'île va faire le plein. Ah ben, quand on voit tout ce qui débarque, et tous les bateaux, c'est pareil.
La saison touristique est bel et bien lancée. Et elle commence très fort.
C'est-à-dire jusqu'à samedi, et c'est vous êtes ça. En pension complète, en séjour randonnée.
Voilà, exactement.
Dans cet hôtel 3 étoiles, le taux d'occupation pour le mois de juillet est 20% plus important que les années précédentes. Début juillet est habituellement une période creuse. Cette année, l'affluence est la même qu'en plein mois d'août. Le coronavirus a compliqué les voyages à l'étranger et c'est bénéfique pour les affaires.
D'habitude, on va en Italie. Et du fait, c'est vrai qu'avec les restrictions, donc on est resté en France. Et puis la Bretagne, on avait envie de découvrir.
Vous êtes obligé de refuser du monde ?
Oui. Oui, là, sur les séjours avec des familles, deux adultes, deux enfants. Sur la fin juillet, ça n'avait plus être possible de prendre de réservation. Les gens ont tout réservé ce qu'ils pouvaient. Enfin, on réservait ce qu'ils pouvaient en juin, en fait. On est rempli pour les 6 prochaines semaines. C'est assez inédit, ouais.
Une surprise pour l'établissement de 63 chambres qui n'a rouvert ses portes que le 13 juin. En pleine crise sanitaire, les incertitudes qui planaient alors sur le tourisme annonçaient une saison moribonde.
C'était un pari au début. On se disait, tant pis, on va ouvrir à perte. Et on va avoir les reins assez solides pour passer cette année à perte et en espérant que l'année prochaine sera bonne. Et on a commencé avec une petite équipe, hein, c'est-à-dire la plus restreinte possible. Et on a vu qu'il y avait tellement de réservations que là, j'ai dû faire venir des cuisiniers en plus, des serveurs, des équipes aux étages.
Ici, la clientèle touristique est chaque année principalement française. Résultat, Belle-Île ne souffre pas de l'absence de clientèle étrangère, tout en gagnant des visiteurs. Autre surprise, la saison a commencé en avance dès le mois de juin. Avec l'essor du télétravail, le taux d'occupation des résidences secondaires a explosé, avant même les vacances d'été. Thomas Briat est réalisateur. Il s'est échappé vers sa maison familiale dès qu'il a pu.
On a vraiment décidé de partir au mois de juin, ce qu'on n'avait jamais fait avant, parce que tout ce qu'on pouvait faire à Paris, on pouvait le faire ici. Pourquoi rester à Paris alors qu'on peut, on peut être au soleil et à la mer, voilà.
La mer, c'est surtout son fils Théo qui en profite.
Bon, on est bons les garçons ? On va se choisir une planche ?
Ouais.
Sans classe obligatoire depuis le confinement, l'école de surf remplace le collège depuis le mois de juin. ce n'est pas le seul à avoir troqué ses cours de PS. L'école de surf bretonne fait le plein depuis la fin du confinement.
Et oui, un mois de juin qui d'habitude est plutôt une période d'examen, une période un petit peu compliquée sur laquelle on travaille moins bien parce que ben, y a Pâques qui s'est écoulé, les week-ends de mai, et que les gens n'ont pas non plus un portefeuille élastique. Ben là, on a bien noté qu'il y avait une vraie différence. Et donc, en ça, effectivement, aujourd'hui, je peux vous confirmer que ben, oui, on est plutôt bien.
Une saison estivale plus longue qui rattrape les pertes du printemps. L'école de surf affirme qu'elle ne sera pas en déficit cette année, si le coronavirus ne vient pas encore jouer les troubles faits.
Alors, comme vous avez pu le constater, il y a une petite erreur dans les sujets. Donc, on reviendra dans quelques minutes sur le fameux plan de relance européen. D'abord, on en profite pour parler de la croissance en France. Ça a l'air d'aller mieux dans le tourisme. Enfin, les professionnels du tourisme s'attendaient à pire, visiblement. Question de téléspectateurs, Christian dans les Yvelines. N'est-on pas trop optimiste sur la reprise économique en France, Mathieu Plane ?
Trop optimiste, non, on ne peut pas dire ça.
Quand on voit
les
chiffres,
c'est un peu difficile de dire ça.
Moins 11%. Hein,
voilà, moins 11, allez, on va dire que si on est optimiste, on est à moins 8. Ce qui est, rappelons quand même, 2009, la plus mauvaise année d'après-guerre, c'est moins 3. Hein. Là, on parle quand même d'une récession trois fois plus dure. Donc, ce n'est pas de l'optimisme. Non, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le rebond de consommation est un peu plus franc que ce qu'on pouvait attendre. Qu'effectivement, on a quand même une consommation d'un certain nombre de secteurs qui n'est pas mauvaise. Mais n'oublions pas, y compris dans le tourisme, on n'est pas du tout au niveau d'activité d'avant-crise. Je regardais les chiffres sur l'hébergement, restauration, on est à moins 20%.
Et pourquoi ? Parce qu'on voit bien les Français partent en vacances.
Alors, il y a deux choses, c'est que malgré tout, il y a quand même une forme de prudence. Une prudence, y compris sur l'organisation, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accueillir autant de monde que d'habitude. Vous avez beaucoup moins d'étrangers qui viennent, oui. Même si les Français vont passer leurs vacances en France. N'oublions pas qu'on a 17 milliards d'excédents sur l'extérieur grâce au tourisme, hein, c'est une de nos filières les plus importantes sur notre commerce extérieur. La deuxième étant quand même l'aéronautique, on a 30 milliards.
Les deux points forts de la France, qui étaient le tourisme et l'aéronautique, qui généraient beaucoup de rentrées de devises, de recettes, ces deux points forts sont menacés définitivement ?
Définitivement, pas totalement, mais la spécialisation sectorielle de la France faisait que, effectivement, nos fleurons industriels, c'était l'aéronautique, on avait 30 milliards d'excédents, et plutôt le tourisme, l'attractivité dans les services. Tous les services de proximité, l'hôtellerie, restauration, les loisirs, les musées, les activités culturelles, tout ce qui était lié à ça. Effectivement, là, c'est touché en plein cœur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça va revenir, comment ça va évoluer dans les mois, voire les années à venir, hein, parce qu'effectivement, les mouvements de personnes risquent de changer de façon assez durable. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser le modèle, y compris du tourisme, ce qui est effectivement assez intéressant. Mais pour le moment, c'est comment vous essuyez les pertes d'un certain nombre de commerces, et souvent des petits commerces, hein, c'est des PME, des TPE, qui n'ont pas beaucoup de trésorerie et qui, pour le moment, survivent parce qu'il y a eu justement ces prêts garantis par l'État. Mais la rentrée risque d'être extrêmement difficile pour beaucoup quand il va falloir justement rembourser ces dettes qui ont été accumulées.
Mais François Soubresaud, c'est vrai que la France est la première destination touristique mondiale et on a l'impression que c'est quelque chose qui est durablement impacté. Il y avait déjà beaucoup de critiques sur le tourisme de masse, mais on voit bien même les vols aériens, on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Ça veut dire qu'on va perdre tous ces touristes chinois et américains, brésiliens.
En 2019, on avait accueilli 89 millions de visiteurs et l'objectif, c'était d'arriver à 100 millions. Donc vous voyez à quel point on est là obligé d'inverser le raisonnement parce qu'effectivement, on ne sait pas du tout si les étrangers vont pouvoir revenir à cause de l'épidémie. Le transport aérien est très impacté. Et puis, vous évoquez les Chinois, effectivement. 7% des recettes touristiques en 2018. Et là, on n'a pas de visiteurs chinois. Donc, ce qu'on voit dans le tourisme, c'est qu'effectivement, le tourisme en France, moyen gamme, ça marche très bien. Vous regardez les hôtels de luxueux de Paris, ça marche pas du tout. Enfin, tout le tourisme haut de gamme et tout le tourisme qui rapporte de l'argent marche pas du tout. Donc, je pense qu'on est dans une remise en cause effectivement du modèle, mais sans qu'on voit encore très bien les acteurs se repositionner vers un tourisme qui soit moins dommage. Je pense que tout le monde est en sidération, en se demandant est-ce que un vaccin va être trouvé, est-ce qu'on peut revenir très vite au monde d'avant, ou est-ce qu'il faut vraiment se reconvertir.
Mais Philippe de Sertine, est-ce que ce n'est pas très inquiétant pour notre balance commerciale, ça ? Parce qu'on disait, le made in France, c'est quoi ? C'est les avions
bien sûr.
Et le tourisme ? Alors, le luxe, peut-être qu'il nous reste le luxe ?
Oui, mais le luxe souffre aussi beaucoup justement du tourisme. Hein. On a une corrélation très forte. Non, je crois que ça, pour le coup, vous voyez, quand on était en train de parler tout à l'heure des problèmes de compétitivité, pourquoi il fallait ne pas augmenter les charges en France, le problème de la fiscalité, si jamais on a beaucoup de dépenses publiques, c'est là qu'on le voit. C'est dans la balance du commerce extérieur. Et nous, notre balance, elle est déjà... En fait, c'est le vrai déficit inquiétant. Hein, vous voyez, l'Allemagne, elle était repartie, quand on parle souvent du miracle allemand des années 2000, c'est l'exportation en disant, on doit être très compétitif pour faire rentrer
rentrer l'argent de l'extérieur.
Et ils vendent dans le monde entier les machines.
De préférence en dehors de l'Europe, d'ailleurs. Hein, ouais. Disant comme ça, on fait venir de la richesse de l'extérieur. On comprend bien, quoi. Hein. La richesse de l'extérieur nous paye nos propres dépenses, y compris de chômage, de retraite, de sécurité sociale, quoi. Donc, on avait déjà un déficit, la France, depuis de nombreuses années, alors qu'autrefois, c'était un champion du commerce extérieur. Donc, depuis, on va dire, à peu près 20 ans, ça se dégrade sans cesse. Et là, cette année, on va avoir une dégradation très, très forte. Parce que s'il n'y a plus d'Airbus, là, déjà, vous avez votre commerce extérieur qui plonge. C'était lui qui soutenait vraiment le commerce extérieur déficitaire. Le tourisme est un des aspects forts. C'est-à-dire, on voit bien, là, par rapport au reportage, les Français qui consomment en France, bon, super, ça permet, vous voyez, d'avoir des transferts de richesses. Donc, d'avoir, par exemple, les entreprises de Bretagne, du Sud-Ouest, du Sud-Est, qui vont avoir des rentrées d'argent. Mais pour le pays France, c'est-à-dire pour la rentrée d'argent dont on en a besoin, c'est essentiel qu'on ait des étrangers. Parce qu'eux, ils amènent de la richesse de l'extérieur. Et là, pour le coup, effectivement, on va avoir un énorme manque qui va s'ajouter au reste. Et ça, c'est vraiment une grosse préoccupation pour l'avenir. Si on doit compenser, il faudra qu'on soit compétitif. Pour être compétitif, il ne faut pas trop de prélèvements. Pas trop de prélèvements, ça ne veut pas dire pas trop de dépenses publiques. On tourne toujours autour des mêmes questions telles que nous les présentent les gouvernements successifs depuis plusieurs années.
Alors, on va donc revenir sur ce fameux plan de relance européen qui est actuellement en discussion dans la douleur à Bruxelles, plan de relance de 750 milliards d'euros. Vous savez que plusieurs pays, dont les Pays-Bas, demandent à ce que ces aides soient conditionnées à des réformes structurelles. Alors, la bataille entre les frugaux contre les dépensiers, sujet de Laura Rado donc, et Ilana Azincourt.
Le masque bien ajusté sur le visage, Emmanuel Macron arrive ce matin à Bruxelles. Première retrouvaille à 27 depuis le début de la crise sanitaire, avec un programme plus que chargé, le budget et le plan de relance économique de la zone euro.
C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire, mais aussi économique et social. Elle requiert beaucoup plus de solidarité et d'ambition. C'est notre projet européen qui se joue là, pour beaucoup. Je suis confiant, mais prudent.
Une prudence partagée par l'autre moitié du couple franco-allemand. Angela Merkel, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, se prépare à deux longues journées de pourparlers.
Je dois dire que les différences sont encore très très importantes. Donc je ne peux pas prédire si nous serons en mesure de parvenir à un accord cette fois-ci. Je m'attends à des négociations très très difficiles.
Le défi est immense. Obtenir un accord à l'unanimité pour répondre à la crise économique. L'accord prévoit une enveloppe de 750 milliards d'euros. 250 milliards sous forme de prêts, 500 milliards distribués sous forme de subventions, répartis de manière proportionnelle aux pays les plus affectés par le Covid-19. 172 milliards d'euros pour l'Italie, 140 pour l'Espagne, la France toucherait 35 milliards et l'Allemagne 29. Une dette européenne mutualisée, le tournant est inédit. Convaincue par Emmanuel Macron, l'Allemagne d'Angela Merkel s'y est récemment convertie.
Et nous espérons que nous allons trouver une solution, même si le chemin à parcourir est encore long.
Parmi les obstacles, l'hostilité des quatre pays frugaux, connus pour leur rigueur budgétaire, le Danemark, la Suède, l'Autriche et à leur tête, les Pays-Bas. Tous réclament en contrepartie des réformes structurelles dans les pays du Sud.
C'est important qu'un tel fonds porté ensemble s'accompagne de réformes pour que tous les États membres soient aussi forts et que lors d'un prochain choc, un tel fonds ne soit pas nécessaire.
Ces dernières semaines, les rencontres diplomatiques se sont donc multipliées dans les capitales européennes. À Paris, La Haye, Berlin ou Madrid, face aux pays les plus libéraux, l'Italie agite la menace d'une scission entre le Nord et le Sud.
Nous parlons de l'avenir de l'Europe. Ici, ce qui est en danger, c'est le marché commun. Imaginez ce que cela signifierait si nous ne sommes pas capables de donner une réponse européenne forte et coordonnée. Nous détruirions le marché commun. Nous détruirions la chaîne de valeur européenne. Nous détruirions nos économies et toute l'Europe serait moins compétitive au niveau mondial.
À la manœuvre, lui non plus n'a pas ménagé ses efforts. Charles Michel, président du Conseil européen, présente plusieurs pistes pour financer ce plan de relance. L'objectif éviter d'augmenter les contributions des États au budget européen.
Ma proposition permettrait d'introduire de nouvelles ressources. D'abord, je propose de se focaliser sur trois secteurs. La taxe sur plastique non recyclé, les émissions de carbone aux frontières et la taxe sur le numérique.
Les 27 parviendront-ils à un compromis à l'issue de ce sommet ? Une prolongation jusqu'à dimanche a d'ores et déjà été envisagée. Dans le cas contraire, ils devront se rasseoir à la table des négociations d'ici quelques jours.
Alors, question téléspectateurs. Pour les frugaux, donc les pays économes du Nord, hein, la France est-elle classée parmi les pays du Sud ? Anne-Laure Delatte.
Alors, non, absolument non. pas. Et je vais vous donner juste une preuve très simple. Hein, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est un pays du Sud ? C'est un pays qui fait peur aux investisseurs. Pour revenir sur le raisonnement du début, quand vous voulez rembourser votre dette, il faut que vous trouviez des investisseurs. Et donc, votre indicateur, c'est le taux d'intérêt auquel on est prêt à vous prêter. Et si vous regardez au tout début de la crise, il y a un pays qui nous avait vraiment fait très peur, c'est l'Italie. En revanche, la France, elle est restée très collée à l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle le spread, c'est l'écart entre le taux français et le taux allemand.
La température, comme le thermomètre. Un peu.
Voilà,
plus
exactement.
Ça monte, plus c'est chaud. Quoi.
Et alors, je peux vous dire que les Italiens, lo spread, ils le connaissent bien. Nous, on ne le connaît pas. En fait, ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours dans les médias parce qu'on n'a absolument aucune inquiétude là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on clarifie ça. Maintenant, les frugaux jouent leur rôle de mettre une pression sur les pays du Sud, et c'est ce qu'ils sont en train de faire ce week-end. Il est très peu probable qu'on arrive à un accord ce week-end. On est probablement en train de mettre un peu en scénario une opposition qui est assez classique en fait en Europe. On est dans une négociation. Il faut trouver une solution. On pensait qu'on arriverait à quelque chose d'extraordinaire qui était arrivé à des transferts. Vous voyez, donc dans le sujet, on a présenté ces 750 milliards d'euros qui se distribuent entre des prêts et des transferts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'ici, quand on cédait entre nous, c'était basé sur des prêts. Il fallait rembourser entre nous l'agence qui nous le prêtait.
Si l'Italie emprunte 50 milliards, elle rembourse 50 milliards.
Voilà. Exactement.
Or là, c'est un budget européen. Et au fond, ça n'est plus le pays à qui on prête qui doit forcément rembourser. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gains nets. Hein.
Oui, alors, et c'est exactement ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez le terme de budget parce qu'en effectivement, on va venir vraiment augmenter largement le budget européen, qui représentait 1,15% du PIB européen, donc c'était vraiment pas grand-chose. Avec ces 750 milliards, on va arriver à peu près à 2%, d'accord ? Mais maintenant, effectivement, on va emprunter ensemble pour faire des transferts vers des pays qui ont été, un, les plus touchés par le Covid, parce que c'est ça l'objectif, en fait, hein, c'est un budget d'amortissement du choc qu'on vient de subir. Et voilà, donc vous allez avoir l'Italie et l'Espagne qui vont a priori beaucoup bénéficier, l'Europe centrale et de l'Est qui vont beaucoup bénéficier, et on retrouve l'intérêt allemand là. Voilà. Maintenant.
Et quand on entendait le président du Conseil italien dire mais attention, si on ne fait pas cette Europe des transferts où les gens riches viennent aider les pays en difficulté, alors ce sera la fin du marché commun. Il a raison, derrière, c'était bien l'intégrité de l'Europe qui était en jeu. Enfin, derrière ce sommet, est-ce qu'on peut dire que si ça se passe mal, possiblement, chacun reprend ses billes et l'Europe implose ?
Oui, enfin non, on est dans un moment critique, hein, depuis d'ailleurs quelque temps. Hein. C'est pas simplement, on va dire, on est quand même avec des tensions très très fortes avec l'Italie du point de vue politique, on a des tensions très fortes, enfin c'est les populations européennes, vous voyez, qui mettent la pression sur l'Europe en ce moment, en disant mais est-ce que l'Europe c'est intéressant ? Donc là je crois quand même qu'effectivement il faut bien être clair, c'est-à-dire l'Europe emprunte 750 milliards, c'est un one shot, c'est pas tous les ans. Alors que le budget, c'est tous les ans. Le budget, malheureusement, il baisse parce que la Grande-Bretagne, elle est partie. Donc on a un budget un peu en diminution. On emprunte 750 milliards qu'on va rembourser. Mais comme c'est 750 milliards, comme on l'a dit dans le reportage, il y a 500 milliards qu'on va donner, des subventions, donc ça veut dire qu'on le donne. Ça veut dire évidemment que les pays qui vont en bénéficier, ils ne remboursent pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'Europe qui doit rembourser.
Alors via des impôts européens d'ailleurs, on va inventer des impôts
européens.
Non mais
c'est ça le truc extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on rentre dans l'Europe fédérale. C'est peut-être pas la manière la plus sexy, honnêtement. Hein. C'est-à-dire qu'on
fait... impôts ?
Bah oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'Europe est fédérale avec ses remontées d'impôts. En disant, bah, c'est un impôt européen, donc on a évoqué trois pistes. 750 milliards quand même, donc il va falloir quand même vraiment beaucoup, beaucoup de taxes pour arriver à... Alors on dit on va l'étaler, etc., mais quand même, quoi. Hein. Donc peut-être, il va falloir trouver autre chose. Donc ça, c'est effectivement la grande, grande nouveauté qu'a accepté l'Allemagne. Attention quand même, hein, on a classé, dit en disant, bah, la France, c'est pas dans les pays du Sud.
Donc, on sera bénéficiaire.
On est quand même au sud du Rhin, hein, pour beaucoup de... on est bénéficiaire. Et deuxième chose, l'Allemagne a changé... Sous la torsion, on lui a tordu le bras. C'est en interne D'accord. que vous avez eu la cour de Karlsruhe. Il ne faut pas oublier, hein, c'est les Allemands, il y a eu un gros débat en Allemagne. Donc attention, c'est fragile.
Mais justement, Mathieu Plane, ce matin, il y avait un reportage sur France Info. Ils étaient allés interroger des Hollandais qui disaient « Mais vous comprenez, nous, on n'a aucune envie de payer des impôts pour financer les retraites jusqu'à les retraites des Français. » Et ils disaient « Les gens qui boivent du vin dans les terrasses. » Alors, je ne sais pas s'ils pensaient aux Grecs ou aux Italiens, mais est-ce que les Hollandais ont tort de penser cela ? C'est-à-dire, nous, on bosse et on va payer les impôts.
Oui, pour... ils ont un peu tort. C'est-à-dire qu'il y a quand même des intérêts communs sur la construction européenne et à faire avancer ce projet européen. Ce n'est pas que pour une vision altruiste ou donner de l'argent aux pays du Sud. C'est que ces intérêts communs, c'est que si l'Europe doit avancer, et elle doit avancer, effectivement, il y a un moment, il faut qu'il y ait des transferts. Et donc, c'est le début d'un fédéralisme. Hein. On parle d'un moment hamiltonien, comme ce qui s'est fait aux États-Unis.
De même que l'île de France paye pour la Creuse, les Pays-Bas paieront pour l'Italie.
Voilà, et c'est-à-dire qu'on commence, on initie. Alors, par contre, c'est les projets qu'il faut déterminer. C'est-à-dire, effectivement, on ne va pas financer le modèle social français ou espagnol ou italien. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement, forcément, on parle beaucoup de la question écologique, la transition énergétique qui concerne l'ensemble de l'Europe, la question du digital. Il peut y avoir des transferts aussi sur la question, par exemple, des plus précaires, sur le chômage. Donc, c'est comment vous définissez, en fait, cette enveloppe et comment elle va se répartir. Ce qui est clair, c'est que l'Espagne et l'Italie, si on regarde les chiffres que vous avez montrés, ça représente à peu près 40%. Ils auraient à peu près 40% de cette enveloppe européenne, alors qu'ils représentent à peu près 20% du PIB européen. Donc, vous voyez, ils récupèrent plus que ce qu'ils représentent dans le pays. La France, pour le coup, c'est pour ça que ce n'est pas un pays du Sud, dans ce cas-là. Ce que vous regardez, elle va recevoir 35 à 40 milliards. Ça veut dire c'est quoi ? C'est à peu près 5% de l'enveloppe. Alors son poids, c'est 15% du PIB. Ouais. Donc il serait contributeur net, a priori, on peut imaginer. Donc on voit que c'est ce mouvement de solidarité qui est assez intéressant, qui va se mettre en place, mais ça veut dire accepter des transferts. Et c'est vrai qu'à la fin, les pays du Nord paieront quand même en partie pour les pays du Sud.
Françoise Fressos, on comprend bien combien est symbolique cette histoire de transfert. Ça veut dire, au fond, bah, on fait vie commune, on fait un peu pot commun. Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne a changé ? Est-ce qu'il n'y a pas le début d'un... patriotisme européen. Est-ce qu'il ne faut pas dire merci, Donald Trump ?
Si. Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux éléments. Alors, Emmanuel Macron dit... parce qu'à un moment, on lui avait interrogé en disant mais finalement, il a bougé parce que c'était l'intérêt allemand. Et là, il s'est un peu mis en colère en disant non, vous ne pouvez pas imaginer les discussions qu'on a eues, j'ai réussi à la convaincre. Et lui, il plaide que c'est grâce aux réformes du début du quinquennat qu'il est parvenu à ce qui est cause commune franco-allemande, ce qui est probable. Mais je pense aussi que...
Alors vous voyez qu'on est sérieux. Nous, Français, on fait des réformes. C'est ce
on
que
fait
vous
des réformes et on peut y aller. Mais je pense que ce qui a fait beaucoup bouger la chancelière, c'est effectivement Trump et ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire, c'est un pays très exportateur. Il voit que quand même, les exportations, ça va être beaucoup plus compliqué avec la guerre sino-américaine commerciale. Et que donc, le marché maintenant naturel des Allemands, c'est l'Europe. Et si vous laisser partir l'Italie, si tout d'un coup cette construction-là se délite, il y a un énorme problème. Et je pense que le patronat allemand a beaucoup plaidé pour qu'on aille vers la mutualisation des dettes qui paraissait en 2008 complètement iconoclaste et pas acceptable du tout. Donc, et l'autre chose, je pense qu'il y a aussi, avec la crise de la Covid, je pense qu'il y a cette prise de conscience que pour peser dans le monde, il faut une certaine souveraineté européenne et qu'on est actuellement très loin d'être en état de se défendre par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Et donc, il y a aussi cette évolution chez Merkel et chez Macron. Et il essaye à chaque fois de planter des banderilles en disant « il faut avancer ».
Anne-Laure Delatte, ça veut dire qu'on est en train d'assister à la naissance de l'Europe puissance, l'Europe nation, alors qui, pour l'instant, c'est une petite graine, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de tourner la page de l'Europe des critères de Maastricht, où quand on était à 3,1, on se faisait taper sur les doigts ?
Alors, j'ai très envie de vous dire oui, mais il faut quand même...
modérer l'enthousiasme.
Oui, un petit peu. Même si c'est vrai que c'est un moment très important. Hein, le fait de parler de transfert, c'est très important. Mais maintenant, de quoi on parle ? 750 milliards, ça va être étalé sur très longtemps. Encore une fois, on ne rembourse pas nos dettes. Hein, c'est la même chose. Donc en fait, on va emprunter, c'est la Commission européenne qui va emprunter au nom de l'Europe. Mais en réalité, on va commencer à rembourser en 26-27... 2026-27, des paiements d'intérêts qui vont pas être grand-chose, si vous voulez. Et même à partir de finalement ce budget qui n'est pas si important que ça, on est encore en train de négocier, effectivement, des réformes structurelles, de la conditionnalité. Et là, je crois qu'on prend vraiment un gros risque sur le projet européen parce que, effectivement, la popularité de l'Europe, elle est en train de vraiment de dégringoler dans des pays comme l'Italie, qui pourtant bénéficie de l'Europe.
Il y a eu un sondage terrible qui montrait que les Italiens avaient, il y avait une majorité d'Italiens qui pensaient qu'il fallait quitter l'Union européenne, qui est tombée pendant le Covid.
Oui, oui, mais enfin, alors d'un côté, c'est absolument irrationnel parce que effectivement, ils ont bénéficié de l'Europe et que un pays comme l'Italie seul face à la pandémie. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, je veux dire, ils ont bénéficié de l'assistance financière européenne et de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, encore, c'est comme la France, elle détient 20% de la dette italienne. Donc clairement, ils bénéficient de l'Europe. Mais en même temps, quand on leur dit il va falloir mettre en place des réformes structurelles, il va falloir faire de l'austérité, ça leur rappelle cruellement ce qu'ils viennent de vivre. Et quand vous regardez, par exemple, les investissements, le nombre de lits en Italie, les dépenses de santé en Italie, ça a beaucoup baissé au cours des années 2000, à partir de 2008-2010, sous une pression austéritaire. Si vous voulez, le citoyen italien, il n'est peut-être pas complètement capable, enfin, je veux dire, de faire ce lien-là, mais en tout cas, il voit bien que l'Europe, elle peut l'empêcher de se protéger contre des chocs très violents qui, on vient de subir le choc pandémique. On aura peut-être un choc numérique. Une énorme crise numérique avec ce qui s'est passé sur Twitter hier. Ça peut prendre des proportions. Donc on a
Twitter
besoin...
de grandes célébrités ont été piratés, Barack Obama,
oui.
etc. Voilà.
Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais moi je vous parie qu'il peut avoir quelque chose qui peut ralentir l'économie de façon très importante.
Un virus
importante.
Informatique.
Voilà, ça. Ou alors, risque climatique. Enfin, on ouvre une décennie compliquée. Et donc, vous
donc,
avez
l'Allemagne
envie...
fait le pari quand même qu'il faut, face à ces défis, il faut essayer de faire cause commune, se serrer les coudes.
Il faut faire cause commune et il faut, il me semble, montrer à des citoyens que l'Europe est capable de les protéger et non pas de les affaiblir face à des chocs qui vont être probablement plus fréquents. Donc le nombre de lits en Italie, il a baissé dans les années 2000. Ce n'est pas forcément uniquement à cause de l'Europe, mais en tout cas, il y a eu de l'austérité en Italie. Donc voilà, je pense que le message important... sur la construction européenne, c'est une Europe qui protège.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, est-il envisagé de créer de nouveaux impôts pour rembourser la dette, Mathieu Plane ? En tous les cas, il y a des impôts qui devaient disparaître, qui ne disparaîtront pas, si on en a bien compris, notamment
la taxe d'habitation.
La CRDS également.
Ah oui, la CRDS qui est prolongée, qui devait être... Voilà, et là, la question de la taxe d'habitation... qui devait être supprimé d'ici 2023.
Est-ce que vous pensez, comme Philippe de Sertine, que d'ici quelques années, on dira bon, faut bien rembourser, on va prendre l'argent là où il est ?
Alors, je ne mettrai pas mon bras à couper qu'on ne le fera pas, en tout cas. Je pense même l'inverse. C'est-à-dire que je pense que ça sera pareil. Le timing, ça sera d'ici 2022. Derrière, la question européenne, vous ne pouvez pas vivre non plus avec des... Conjoncturellement, vous pouvez faire du déficit. Mais structurellement, vous ne pouvez pas avoir un déficit à 7 ou 8%. Vous ne pouvez pas financer un modèle social, etc. Là-dessus, vous ne pouvez pas baisser les impôts sur la production, vous ne pouvez pas baisser les exonérations de cotisations pour les jeunes sans financement en face. Donc la question du financement en face, il va être simple. C'est soit des prélèvements nouveaux, y compris la taxe d'habitation, finalement, est-ce qu'on la fera ou pas, la baisse, ou la question de la dépense publique. Et donc, ça va être le périmètre du modèle social et donc la question derrière de l'austérité qui risque de revenir assez vite, malheureusement, assez vite, parce qu'on aura cette pression-là.
Va-t-on créer une vignette automobile pour rembourser la dette Covid 2019, Françoise Fressos ? Parce que, alors, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais il y a en plus une dimension environnementale dans les et ça coûte. C'est plus cher de rouler à l'hydrogène que de rouler à l'essence.
C'est sûr, mais ce que je pense, c'est qu'ils vont éviter quand même les baisses d'impôts dans l'année qui vient. Je pense que ça, c'est le sujet...
Les hausses d'impôts,
les hausses d'impôts, ouais. Pardon, c'est le sujet tabou. Je suis d'accord avec Mathieu Plens, je pense que ça va venir... pendant la campagne présidentielle de 2022, ça va être le sujet. Comment est-ce qu'on finance notre modèle social après avoir subi toute cette hausse d'endettement pour cause de crise ?
Oui.
Quand vous avez évoqué l'automobile, c'était autrefois... Vous savez, un bon impôt, c'est avec une assiette large, on dit toujours, quoi.
Ouais.
Donc là, l'automobile, peut-être moins maintenant, mais par exemple, la téléphonie, ça, c'est sûrement un endroit qu'il faut explorer, quoi, vous voyez.
La taxe téléphone portable, la taxe smartphone. Qui sont les détenteurs de la dette française ? Alors, Philippe de Sertine, Laure Delatte nous disait tout à l'heure, il y a maintenant la Banque Centrale Européenne qui en a 20%. Après, ce sont qui ?
Alors, on a des détenteurs extérieurs. C'est tout le problème. Hein. C'était la question, c'était tout à l'heure sur le Japon. On n'est pas venu parce que c'est... Vous avez les détenteurs intérieurs, c'est-à-dire les Français détiennent la dette française.
Via l'assurance vie,
c'est ça ? Par exemple. Oui, c'est-à-dire, vous ne le savez pas, quoi. Mais en réalité, on investit dans, dans la dette française parce que c'est une dette considérée comme sûre, donc qui permet, quand vous la placez, finalement, de dire « je ne prends pas de risque ». Ça ne rapporte rien, de toute façon, il n'y a rien
quand
qui rapporte.
Quand je place mon argent en assurance vie, il va dans les poches du gouvernement qui s'en sert pour payer les, ce qu'il n'arrive pas à financer.
Oui, c'est ça, qui sert à financer le déficit. Et puis, vous avez des financiers extérieurs. Et des financiers extérieurs, c'est des fonds d'investissement, toujours pareil aussi, qui disent « parce que », ce que disait tout à l'heure Anne Ordelat, à juste titre, on est considéré comme... lié à l'Allemagne, donc c'est à bonne dette. Quoi. Les Allemands, Français, c'est bien, ça, c'est de la dette qui est sûre. Donc vous avez beaucoup de financiers extérieurs qui nous prêtent.
Faire vu de Melbourne ou de Los Angeles, bon, la France, l'Allemagne...
Ou de Hong Kong aussi, hein, beaucoup, les Asiatiques. Les Asiatiques sont très friands. C'est-à-dire, en ce moment, on voit que quand l'agence France Trésor propose sa dette française, il y a 3 ou 4 fois la demande par rapport à tout le monde. Dire oh, j'en veux, parce qu'on se dit, c'est de la dette sûre. En plus, évidemment, comparé aux autres, hein, c'est toujours pareil.
Allons-nous faire fonctionner la planche à billets ? Alors ça, c'est un peu technique. Anne-Laure Delatte, ça veut dire quoi la planche à billets ? Ça veut dire que quand la Banque centrale prête à la France, elle fait véritablement, elle imprime des billets, puis elle dit, tenez, prenez-les. C'est en un fait, peu ça, le système, quand même.
Je vais vous dire un petit secret, on le fait déjà depuis longtemps. Hein. En fait, le bilan de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire...
C'est de l'argent magique, alors.
Oui, mais on est...
Jusqu'à quand ça marche, ça ?
Alors... Donc, pour répondre à votre question, pardon. D'abord, on a multiplié le bilan de la Banque centrale en 10 ans par 3. Donc, il y a 3 fois plus d'argent en circulation qu'il y a 10 ans.
Donc, ces rotatives ont marché 3 fois plus. Enfin, elles ont imprimé 3 fois plus de billets qu'il y a 10 ans.
Ce n'est pas forcément des billets, c'est sur votre compte. Voilà, ce n'est pas forcément du cash, mais effectivement, la quantité de monnaie, elle a augmenté... au moins par 3 juste depuis 2008. Et là, je ne vous parle pas du Covid. On a encore augmenté énormément avec le Covid puisqu'on a mis en place, on a mis encore plus d'argent dans ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire
On crée de la monnaie qu'on fait circuler en disant faut soutenir les entreprises.
Mais pourquoi ? Parce qu'on a un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'on a eu une crise financière, là on a eu un arrêt de l'économie absolument comme une guerre. Et donc il a fallu absolument s'assurer que vous n'aviez pas d'interruption de paiement. Donc il fallait remettre de la liquidité sur le.
Pourquoi on fait. Pourquoi plutôt que de faire des impôts, on n'imprime pas des billets ? Jusqu'à quand ça marche ça ?
Alors,
quand
est-ce que ça marche plus ? Une des conséquences, c'est que vous avez des taux d'intérêt très bas. Donc ça peut être très bien au départ pour relancer la machine. Sauf qu'à un moment, ça pose plein de questions, plein de distorsions dans l'économie. Mais pour l'instant, on ne se pose pas trop la question. Hein. Je peux vous donner les limites à long terme. Mais
c'est qu'à la fin, j'imagine, on a des billets comme au Monopoly. On se dit, mais qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut rien.
Pour l'instant, non. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait plutôt des distorsions sur les titres financiers. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de problème d'inflation. En réalité, on n'a absolument pas de problème d'inflation en France ou dans le monde. On a plutôt, au contraire, des prix qui baissent et donc une activité qui a baissé sur les 30 ou 40 dernières années. On a une croissance structurelle qui a baissé et des prix qui ont baissé. Donc, ce n'est pas le problème. On n'a pas de la monnaie de singe.
On n'a pas encore les stigmates de cette politique de rotative, de planche à billets. On n'en a pas encore. À part ce que disait tout à l'heure Philippe de Sertine, il y a tellement d'argent que ça fait monter la bourse, ça fait monter l'immobilier et l'or.
C'était la fin du raisonnement. C'est que si ça ne pose pas de problème sur les prix réels, ça pose des problèmes sur les prix des titres. Et donc, titres actifs, en gros. Donc, c'est quoi ? C'est l'immobilier. Vous êtes en train de créer énormément d'inégalités. Entre le détenteur d'immobilier, c'est-à-dire celui qui possède sa maison, et celui qui ne possède pas et qui ne sera pas capable de le posséder parce que les prix ont augmenté de façon très importante depuis au moins 10-15 ans. Vous avez des cycles immobiliers, d'accord. Mais là, on a... Voilà.
Parce que tout cet argent qu'on a créé, il se place quelque part et il termine dans les appartements parisiens.
Mmh. Alors,
du coup, le prix des appartements parisiens a doublé.
Pas seulement, c'est-à-dire que ça se place sur l'immobilier à New York, à Paris, etc. Ouais. Mais ça se place aussi sur des titres financiers qui peuvent être beaucoup plus spéculatifs. Vous avez une prise de risque beaucoup plus importante quand l'argent n'est pas cher. Donc en fait, on le paye, hein. On va le payer, on le paye par des bulles et par une montée des risques.
Alors justement, Françoise Fressoz, Jean Castex prépare-t-il un plan d'austérité ? Lui qui se vante d'être du terroir, plein de bon sens territorial, à un moment, on ne peut pas dépenser sans compter.
Ça, je sens que vous êtes depuis le début de l'émission obsédé par l'austérité et les impôts. Là, je vous dis, je vous réponds très nettement que ce n'est pas leur priorité de l'année qui vient. La priorité, c'est la relance. Et après, je pense qu'ils rentreront peut-être dans une autre phase, mais ça sera pendant la campagne présidentielle. D'ailleurs, l'avantage, c'est que je pense que le débat sera posé devant les Français et qui pourront choisir en liberté. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura un gros...
On peut se faire élire avec un programme de hausse des impôts ?
Non, mais il y aura un gros débat sur le travail. Je pense qu'à un moment, si Emmanuel Macron est logique avec lui-même, il dira si on veut essayer de colmater ce qui se passe sur les retraites et si on veut produire davantage, il faut travailler davantage. Je pense
repousser
que ça sera...
l'âge de la retraite, etc.
Ben voilà, je pense que ce sera l'un des sujets clés de la campagne. Voilà. Mais le recours à l'impôt, peut-être qu'ils le feront parce qu'ils seront obligés, mais ça ne sera pas la priorité du moment.
L'épargne des Français pourrait-elle être menacée ? Philippe de Sertine, les Français ont deux types d'épargne, l'immobilier, on vient d'en parler, et l'assurance-vie.
Mais vous voyez, enfin, c'est déjà par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire vous avez une vraie question. D'ailleurs, ce que pensent les gens qui nous regardent et qui ont de l'épargne, c'est de dire, mais en fait, ça vaut quoi ? On dit d'abord, un, j'ai pas de revenus, j'ai plus de taux d'intérêt, et qu'est-ce que ça va être récupérer mon argent plus tard ? Parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, c'est toute cette question sur laquelle on est. Et comme vous disiez tout à l'heure, mais jusqu'où ça... C'est le moment où ça s'arrête. C'est tout d'un coup, on perd confiance. C'est arrivé dans l'histoire, hein, et là, on est dans un moment incroyable, parce que c'est au niveau mondial. C'est la question sur l'épargne. C'est une question qui se pose très fort en Chine aussi, par exemple. Les gens disent, mais ça vaut quoi mon épargne ? Parce que j'en aurai besoin dans le futur. C'est une vraie question.
Oui,
juste si je peux ajouter un mot, c'est que dans cette crise, il y a quand même quelque chose de très, très spécifique. C'est que les ménages n'ont jamais accumulé autant d'épargne. Ouais. On est à 75 milliards d'accumulation d'épargne supplémentaire depuis le début de la crise. Donc l'enjeu de l'épargne est effectivement déterminant, à la fois pour soutenir la consommation. Effectivement, il y a aussi cette question, est-ce qu'à un moment, cette épargne ne sera pas fiscalisée ?
La France future Grèce, mais il ne reste que 4 ou 5 secondes pour répondre. Allez, Philippe de Sertine, non ?
Non, on espère que non, bien sûr. Non, non.
Bon. Eh ben voilà, ben merci d'avoir répondu brièvement à cette question et de nous avoir assuré. C'est dans l'air, rediffusé ce soir à 22h40 et vous restez sur France 5. Bonne soirée.